Tamani, voici nos informations en français.
Et c'est avec Mariam Maïga à la présentation. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Voici les titres. L'ancien dirigeant du mouvement terroriste Ansar Dine, Ahmad Al-Faki, a été libéré ce dimanche par la Cour pénale internationale. Pour les victimes de la crise de 2012 à Tombouctou, cette libération donne un sens à la cohésion sociale. Ouverture ce mardi d'une rencontre entre la délégation malienne et le secrétaire général de l'ONU sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens et la situation sécuritaire dans le pays. La Fédération d'associations de veuves militaires du Mali s'est réjouie de l'amélioration des conditions de vie des femmes veuves militaires. Selon elle, la pension de réversion allouée à certaines veuves militaires a augmenté à plus de 300%. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été libéré le dimanche dernier. Selon le bureau de la Cour pénale internationale au Mali, sa peine de 9 ans a été réduite de 2 ans pour bonne conduite. Il avait été condamné pour avoir détruit de mausolées protégées à Tombouctou, des monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour les victimes de la crise de 2012, la libération d'Al-Faki donne un sens à la cohésion sociale. Imiranaki Lumaïga.
6 ans après sa condamnation à 9 ans d'emprisonnement, Ahmad Al-Faki Ahmadi est désormais un homme libre. L'ancien djihadiste avait été condamné en septembre 2016 pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre la porte de la mosquée Sidi Yahia et 9 des mausolées de Tombouctou. Aujourd'hui, Ahmad Al-Faki n'est plus détenu pour les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable devant la CPI. Il reste cependant toujours sous contrôle des autorités de détention de l'Angleterre, son pays d'accueil. Margot Tedesco, porte-parole de CPI au Mali.
Le 25 novembre 2021, donc trois juges de la chambre d'appel a décidé de réduire donc 2 ans la peine d'emprisonnement de Al-Mahdi, qui était initialement fixée à 9 ans. Dans le cas de Al-Mahdi, les juges ont prononcé une réduction de peine de 2 ans, notamment pour avoir collaboré avec la CPI, avoir bien collaboré avec toutes les instances de la CPI, pour s'être bien comporté lors de sa détention.
Cette libération anticipée de l'ex-chef de la police islamique avait été annoncée au mois de novembre dernier. À Tombouctou, les victimes de la crise de 2012 espèrent que cette libération d'Al-Faki va contribuer à l'entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble à Tombouctou. Harbert Kunta, victime de la crise de 2012 à Tombouctou.
Depuis plusieurs mois, Al-Faki a demandé pardon. Vous savez que Tombouctou, c'est une ville de l'islam. Donc, le pardon fait partie des valeurs. C'est une valeur de l'islam. Donc, on a accepté. Et il a reconnu et on a accepté.
Des juristes expliquent que cette décision de la CPI par sa coopération avec la justice et son bon comportement.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Studio Tamani. La situation au Mali, notamment l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako, sera abordée lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ce mardi 20 septembre, le colonel Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement par intérim, prendra part à cette 77e session avec une centaine d'autres chefs de gouvernement. À marge de l'Assemblée, il rencontrera le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Draman Maïga pour plus de détails.
Le décor de cette rencontre a été planté par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Il a affirmé ce dimanche 18 septembre que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ne sont pas des mercenaires et qu'il faut trouver la solution pour leur libération. « Je suis en contact avec les autorités maliennes car il faut résoudre ces problèmes », ajoute-t-il. La délégation malienne est conduite par le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. En plus de la session au siège de l'ONU, le chef du gouvernement échangera avec le secrétaire général des Nations Unies. Les discussions porteront sur la situation au Sahel, notamment la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali. L'affaire des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier dominera les discussions à en croire les propos d'Antonio Guterres. Rappelons que le jeudi 15 septembre, dans un communiqué, le Mali a qualifié la note du Conseil de sécurité ivoirien de manipulation. La Côte d'Ivoire avait auparavant saisi la commission de la CEDAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement afin d'obtenir la libération des 46 soldats.
Un sujet signé Draman Maïga. Une conférence intergénérationnelle s'est tenue hier lundi au centre Awa Keïta sur la réconciliation avec les femmes. Selon les organisateurs, cette activité s'inscrit dans la semaine de la réconciliation nationale dont les activités ont commencé depuis le 15 septembre dernier. Cependant, l'objectif de cette rencontre étant de discuter sur la problématique de l'implication des femmes dans le processus de paix au Mali. Reportage de Halima Yattara.
Cette rencontre a réuni les différentes générations de femmes. Pour elles, la paix ne se construit pas sans la participation des femmes.
Pour la réussite de toutes choses, il faut l'implication de la femme.
Nous les jeunes, nous devons être conscients de la situation du pays, savoir là où mettre les pieds pour pouvoir aider les vieux.
Tous les Maliens sont égaux.
Que les femmes soutiennent les hommes et qu'on se tienne les mains.
Il faut qu'on fasse la réconciliation. Les vieux ont une place importante et les jeunes aussi.
Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est elles qui sont au début de la chaîne de la construction humaine, affirme Mouhamadou Diouara, chef de cabinet au ministère de la Réconciliation nationale.
Alors, nos attentes, c'est déjà que les femmes du Mali se parlent sur les modalités de leur participation au processus de paix et que cela se fasse en prenant en compte toutes les générations, qu'elles se saisissent des instruments existants, qu'elles nous enrichissent de nouvelles idées. Et les femmes, lorsqu'elles sont sensibilisées, c'est des millions de personnes qui sont sensibilisées.
Rappelons que cette semaine de la réconciliation nationale va se poursuivre jusqu'au 21 septembre 2022.
Sur un tout autre sujet, le personnel de l'hôpital de Poingé ont entamé 120 heures de grève, soit 5 jours à compter depuis hier lundi jusqu'au vendredi 23 septembre prochain. Selon les responsables syndicaux, l'objectif est de revendiquer une meilleure condition de travail au sein de leur structure qui est en besoin de matériel adéquat. Les détails dans ce reportage de Sita Sidibé.
Du service d'urgence à la neurologie à l'hôpital de Poingé, les proches des patients confirment que le service est régulé dans ces structures, malgré la grève des médecins.
J'ai amené mon père aux urgences, les médecins l'ont consulté. Les premiers soins ont été faits, je ne suis même pas au courant de cette grève.
Bon, moi, je ne peux pas confirmer ça, parce que moi, je suis venu, il m'a reçu, il a fait mon travail, ils ont sollicité mon grand frère, il est là, je n'ai pas eu de problème.
Bon, depuis chaque fois qu'on les sollicite, ils sont là, prêts à prendre en charge les malades.
De leur côté, les syndicalistes dénoncent non seulement le manque de qualité du plateau technique au sein de l'hôpital, mais protestent aussi contre une mutation illégale de leurs camarades de lutte depuis un an. Docteur Guida Landré, secrétaire général du SNS, syndicat national de santé.
C'est un collectif de syndicats qui se sont regroupés pour décider de défendre les intérêts du personnel, mais aussi décrier la situation du plateau technique qui ne va pas au point G. Le premier point qui nous tient à cœur, c'est le point de notre camarade Fousseyni Koulibaly qui a été injustement muté.
A rappelé que le syndicat national de santé souhaite observer une grève illimitée dans les jours à venir, si toutefois leurs doléances ne sont pas prises en compte.
Autre titre de l'actualité du jour, ces dernières années, les conditions de vie des femmes veuves militaires ont été améliorées. La pension de réversion de certaines veuves militaires a augmenté, tenez-vous bien, de plus de 300%, affirme la Fédération d'associations de veuves militaires du Mali. Au même moment, les enfants dont les parents sont morts en mission de l'État sont pris en charge par le gouvernement. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, Studio Tamani a fait une immersion sur les veuves et orphelins militaires. Omar Ouégalo.
Pour la Fédération d'association des veuves militaires du Mali, les femmes dont les maris sont tombés sur le champ de bataille bénéficient de plus de soutien. Ces aides viennent de l'État, des ONG et des particuliers. Selon Mme Keïta Djenaba Keïta, présidente de la Fédération d'association des veuves militaires du Mali, la pension de réversion des veuves a été triplée ces derniers temps.
La situation des veuves militaires pratiquement au Mali, vraiment ça s'améliore parce que pas mal de choses ont changé. Vu les conditions alimentaires, les conditions de logement, tout a changé maintenant. Sinon, auparavant, là, moi, j'avais des veuves qui ne touchaient que 11 000 francs de pension, mais maintenant, ils ont plus de 40 000 francs.
En plus des veuves militaires, les enfants dont les parents sont tombés dans l'exécution des missions de l'État bénéficient également du soutien du gouvernement. Il s'agit notamment de la prise en charge sanitaire. Ces orphelins sont réunis au sein d'un regroupement dénommé Pipi de la Nation. Madame Kone Sissi Odile Dako, directrice générale de l'Office national des Pipi en République du Mali.
À partir du moment où ils ont la qualité de de pupilles, ça ouvre des droits. Droit à la prise en charge des frais d'actes médicaux et de soins, et aussi droit à la prise en charge des frais de scolarité. Droit à des subventions d'entretien. Un montant forfaitaire de 100 000 francs par trimestre et par pupille.
Aujourd'hui, les Mali comptent plus de 1 200 pupilles de la nation et plus de 2 000 veuves militaires.
Parlons à présent de ce problème que rencontrent les usagers au quotidien. Il s'agit de la rareté des pièces de monnaie, une situation qui impacte les clients et les commerçants et impacte également les échanges commerciaux et autres activités. Certains vendeurs imputent ce manque de monnaie au refus des usagers de prendre certaines pièces ou les petits billets vieillissants. Pour les économistes, c'est dû surtout au contexte économique du pays. Les détails dans ce reportage signé Moussa Ag Mahaha et Madougou Hamada.
Les populations sont unanimes. La rareté de la monnaie se fait sentir au marché et dans les rues. Certaines accusent les commerçants de refuser de faire la monnaie.
Pour rendre la monnaie, il faut que tu en aies assez pour satisfaire les clients.
Tout dépend de la position des commerçants. Quand tu apportes 10 000 pour un achat de 500, on te dira toujours qu'il n'y a pas de monnaie.
Obtenir des jetons devient compliqué, car certaines n'acceptent pas les pièces de 200 et 250 francs. C'est difficile d'avoir des billets de 500 francs et ces pièces aussi disparaissent.
Même perception du côté des commerçants. Ils rejettent la faute sur les clients et indiquent que cette situation impacte aussi les échanges commerciaux et d'autres activités.
Nous n'acceptons pas entre nous-mêmes, sinon les banques n'ont informé personne de ne pas accepter les pièces de 250 francs. S'ajoute la pièce de 200 francs maintenant, les gens commencent à réclamer les billets de 500 francs.
Les clients amènent des gros billets pour qu'on fasse la monnaie. Pour un achat de 500 ou 400 francs, ils peuvent te remettre 10 000 francs. Parfois, ils ont la monnaie mais ne la donnent pas, car ils cherchent eux aussi de la monnaie.
Les économistes justifient cette question par la baisse de l'économie locale suite aux différentes crises. Professeur Abdul Karim Djamountene, économiste, nous explique.
La monnaie, pour m'en procurer, il faut que j'aie de l'argent. Mais lorsque les gens n'ont pas assez d'argent, la circulation diminue. Or, pour qui connaît un peu le Mali, ces dernières années, les gens se sont appauvris. Depuis les sanctions, beaucoup de personnes, de travailleurs ont perdu leur emploi. Aussi, les revenus ont baissé.
Il faut noter que malgré la rareté de la monnaie, certains jeunes s'adonnent à un business de change. En exemple, un billet de 1000 francs est échangé contre des pièces de 800 francs.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, commençons par Kita où un homme a donné la mort à sa première épouse suite à une dispute entre co-épouses. L'incident est survenu la semaine dernière dans la commune de Kouloubaléa, région de Kita. Selon des témoins, le mari mécontent du comportement de la première épouse vis-à-vis de sa co-épouse a fini par l'assommer. Les forces de l'ordre ont arrêté le mari, il attend son jugement. Les établissements scolaires de Sikasso s'apprêtent pour la rentrée scolaire 2022-2023. Certains ont commencé à balayer et à assainir les cours. D'autres s'occupent de l'élagage des arbres et le nettoyage des tables bancs. Selon les autorités scolaires, toutes les dispositions sont prises pour une reprise normale des classes. Terminons par Yoroso où Gaussou Dao est désormais le nouveau président de l'Union des sociétés coopératives des producteurs de coton. Il a été élu le jeudi dernier lors d'un vote. Sur les 172 délégués inscrits, 120 ont voté pour M. Dao contre 28 voix pour son challenger. Il sera désormais à la tête d'un bureau de 17 membres, dont 12 membres du conseil d'administration et 5 du comité de surveillance. C'est la fin donc de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Idrissa Sakho. Réglementation des mototaxis, où en sommes-nous? C'est le thème central de notre magazine du jour. L'opération spéciale de délivrance des permis de conduire, carte grise de plaque d'immatriculation par le gouvernement a pris fin au mois d'août dernier. Elle concerne principalement les mototaxis et tricycles. L'initiative visait à réduire les tarifs pour permettre aux conducteurs de tricycles et mototaxis de s'acquérir ces documents. Où en sommes-nous donc aujourd'hui avec ces dispositions? Les détails avec Khalifa Guita.
Cette mesure vise à réglementer le secteur des mototaxis en pleine expansion partout dans le pays. L'acquisition de ces différentes pièces vise à faciliter le contrôle. Mamadou Sow, directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux, estime que le bilan de l'opération spéciale d'immatriculation des engins à deux et trois roues est passable au regard des attentes.
Nous avons espéré dans un premier temps immatriculer 40 000 engins à deux et trois roues. Pour le permis, nous sommes focalisés sur un nombre de 15 000. Au final, les bilan, nous aurons aimé être débordés de boulot, mais nous avions travaillé tranquillement. Sur les 40 000 cartes grises plaques espérées, nous avions immatriculé 1571 motos. C'est dérisoire. Un ensemble de 23 607 certificats de mise à la consommation qu'on appelle les documents de douanier. 9402 ont eu leur permis.
À ces exigences de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux s'ajoute celle de la mairie du district. Cette décision de la mairie exige aux conducteurs des tricycles et mototaxis un numéro d'identification à poser sur une plaque, un gilet jaune et être bien équipés. En plus, ils doivent avoir les 18 ans révolus, une vignette valide, une carte municipale et une assurance. Adama Traoré, président du syndicat des conducteurs de mototaxi.
Les impôts qui avaient fait une vignette cette année, de 15 000 ou de 18 000 selon l'âge de l'engin. Nous, on a dit que nous ne sommes pas dans le même contexte que les taxis et les Sotrama, qui ont, eux, une carte de transport. Chez nous, le texte ne prévoit pas ça. Nous avons négocié avec les autorités. Ils ont déplacé le problème en janvier 2023. Nous ne voulons pas du tout cette vignette-là. Sinon, avec la mairie, nous prenons les vignettes, les stationnements, les autorisations, il n'y a aucun souci.
Peut-on s'attendre à une autre opération spéciale dans les jours à venir? Mamadou Sow donne des explications.
Dès la fin de l'opération qui est intervenue le 15 août, les tarifs normaux, habituels, s'appliquent. C'est-à-dire que celui qui vient pour son permis de conduire va payer 4 000 francs pour le Russie, 5 000 francs pour la sécurité, 5 750 francs pour les timbres, et les crédits de plaques sont entre 23 500 à 25 000 francs. De dès que les connaissances seront réunies, nous aurons mené, comme nous avions fait en 2021, une opération d'envergure nationale contre les sanctions.
La mise en vigueur de cet arrêté du gouvernement n'a pas encore été précisée. En attendant, la Direction générale des transports terrestres, maritimes et fluviaux invite tous les usagers des engins à deux et trois roues à se mettre en règle.